France Culture.
France Culture. Le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Et vous, quel est le livre qui vous a marqué? Celui qui agit encore tel une révélation? Philosophe, historien, anthropologue aussi, ont ce livre, ce texte, cet auteur qui continue à les hanter et qui a insufflé leur pensée. Chaque vendredi, l'un d'entre eux vient nous en parler et aujourd'hui, notre invité, professeur émérite de littérature, psychanalyste, qui pratique depuis plusieurs années l'exploration de vies alternatives, celle de nos héros et de leurs auteurs, a choisi de parler de celui qui, avec la promesse de l'aube, a lui-même réinventé sa propre vie, Romain Gary.
Je ne puis vraiment dire que c'est une autobiographie parce que précisément le personnage central, ce n'est pas moi, c'est ma mère. J'irai plus loin. Le diplomate français, le consul général de France, et si je puis rappeler tout cela sans paraître vaniteux, le prix Goncourt, le compagnon de la Libération, ce n'est pas moi, c'est ma mère. C'est sa volonté prodigieuse qui m'a fait entièrement. C'est une sorte de réalisation d'un caractère et d'une volonté indomptable qui étaient les siens, auquel la vie s'est pliée. La vie semble avoir obéi à ma mère. Mais en réalité, je m'en veux beaucoup, je dois dire. Elle m'avait peut-être sous-estimé au point de vue indépendance, au point de vue de ma capacité de me tenir debout et droit tout seul, sans son appui. Elle m'avait appuyé dans la vie pendant si longtemps que lorsque je l'ai quitté pour aller me battre en Angleterre, que lorsque j'ai rejoint le général de Gaulle, que je me suis trouvé aviateur de la France libre, elle avait cru devoir m'alimenter à distance. C'est ce que je dis dans mon livre. Le cordon ombilical avait continué à fonctionner. Elle m'a envoyé pendant des années des lettres qui m'invitaient au courage et elle voulait me rassurer. Ces lettres, elle les avait écrites d'avance, en paquet, avant de mourir. Je ne le savais pas. Elle était morte et les lettres continuaient à m'arriver.
Bonjour Pierre Bayard.
Bonjour.
Bienvenue dans le souffle de la pensée. Vous êtes professeur émérite de littérature à l'Université Paris 8, psychanalyste. Votre livre « Aurais-je été sans peur et sans reproche, le chevalier Bayard et moi » est paru aux éditions de Minuit. Pourquoi avoir choisi Romain Gary, qu'on vient d'entendre dans cet archive de 1970, et notamment son livre « La promesse de l'aube », dont il parle aussi dans cet archive de 1970. Vous avez d'ailleurs levé les yeux quand vous l'entendiez raconter l'histoire de sa mère. Pourquoi avoir choisi en tout cas ce livre-là, Pierre Bayard ?
Je suis garien depuis très longtemps, quasiment depuis toujours.
Depuis la naissance.
Voilà, et même avant. Hein. Et ce qui m'a toujours emballé chez Gary, c'est beaucoup de choses, hein, mais en particulier son humour. Je crois que j'ai découvert Gary à l'époque de l'affaire Ajar. Les plus jeunes qui nous écoutent ne savent probablement pas à quel point ça a été une affaire qui a duré des années et qui a emballé le milieu littéraire, avec le surgissement tout à coup en 1974 d'un nouvel auteur, avec une voix extrêmement drôle, faite de distorsions de langage, de petites erreurs. Et le livre Gros Câlin, le premier livre de ce mystérieux auteur Ajar, va emballer la scène littéraire. On y découvre un narrateur qui s'appelle Cousin, qui est un peu un simple d'esprit, qui parle de manière très confuse et qui s'identifie et se confond avec son serpent python qu'il a adopté. Donc vous avez un style qui est fait de circonvolution et de serpentement. Le livre est extrêmement drôle. Ajar continue sur sa lancée avec un deuxième roman l'année suivante, en 1975, La vie devant soi. Le narrateur, Mohamed, est un momo. Est un arabe qui a été adopté par une mère juive et qui lui aussi a beaucoup de difficultés à s'exprimer. Voilà, c'est un petit garçon. Et le livre a tellement de succès qu'il obtient le prix Goncourt et Ajar va continuer à écrire pendant des années. Et tout le monde se demande qui est ce mystérieux Ajar jusqu'à ce qu'on découvre que c'est le petit cousin de Romain Gary, un certain Paul Pavlovitch, qui va donc apparaître sur scène et incarner Ajar pendant des années. Et lorsque Gary meurt le 2 décembre 80 et se suicide, on va à ce moment-là révéler que Romain Gary et Émile Ajat n'étaient qu'une seule personne et que Gary avait réussi à avoir deux fois le prix Goncourt.
C'est interdit par les règles du Goncourt. Voilà. Un auteur ne peut être primé qu'une fois.
Voilà. Et donc c'est le seul cas, d'ailleurs, je crois, où le prix Goncourt a été décerné à deux reprises. Et donc, moi, j'ai adoré cette histoire. J'ai trouvé ça absolument formidable.
Mais vous aviez quel âge? Vous êtes né en 54, je ne me trompe pas, Pierre Bayard. Donc, ça commence quand vous avez 20 ans.
J'ai la vingtaine quand ça commence. Et j'ai tout de suite été admiratif d'Ajar.
Avant Gary.
Gary, ça devait être à peu près au même moment, mais... Personne, à peu près personne, hein, n'avait pensé que c'était une seule et même personne. Et donc, cette histoire-là m'a emballé, parce que j'ai trouvé que c'était extrêmement drôle, et je continue à penser que c'est extrêmement drôle, même si c'était beaucoup moins à la fois pour Pavlovitch et pour Gary lui-même. Hein. Et ensuite, j'ai découvert tout l'humour de Gary, non seulement en acte avec cette histoire, mais aussi en texte. Tout Ajar est extrêmement drôle, mais aussi La promesse de l'aube. Et c'est un texte qui est extrêmement drôle, avec un humour très particulier qui n'est pas arbitraire ou immotivé. C'est un humour qui est chargé de prendre en compte une certaine forme d'émotion et de raconter des événements graves avec distance. Et je crois que c'est cette dimension-là qui m'a conduit vers Gary, d'autant que en tant qu'essayiste, hein, je ne vais pas dire que j'ai de l'humour parce que ce serait très prétentieux. L'humour, il s'apprécie à la réception, pas à la création.
Oui, on ne peut pas vraiment le décider.
Mais en tout cas, j'essaie d'en faire dans mes livres. J'essaie de parler de choses graves avec décalage et avec des narrateurs qui ne sont pas moi-même. Comme Gary n'est pas véritablement lui-même dans ses textes. Il invente des narrateurs et il va finir, après avoir inventé des narrateurs, par créer un personnage d'auteur imaginaire.
Alors La promesse de l'aube, c'est vraiment signé par Romain Gary. Ça sort en 1960, c'est pas du tout signé sous le nom d'Émile Ajar. Vous dites, Pierre Bayard, que vous avez découvert Gary, Ajar, enfin, cet auteur, on pourrait dire multiple, avec l'affaire Émile Ajar, donc à deuxième moitié des années 70 jusqu'au début des années 80. À ce moment-là, vous avez 20 ans. Est-ce que c'est ça qui vous décide à non seulement vous intéresser à la littérature, à non seulement vous lancer dans une carrière de professeur de littérature, mais en plus à vous lancer dans les travaux pour lesquels vous êtes connu aujourd'hui, c'est-à-dire cette exploration de mondes parallèles, de vies alternatives, des héros de romans, des héros de pièces, de mythes, des auteurs. Vous êtes connu, je le signale, pour comment parler des livres qu'on n'a pas lus. Il y a eu deux autres livres après, comment parler des lieux où l'on n'a pas été, comment parler des faits qui ne se sont pas produits. Est-ce que c'est Gary? Vous me faites un petit pouce levé. Oui, j'ai bien appris ma leçon. Est-ce que ça vient de Gary vraiment?
Une partie de mon écriture vient de Gary, hein, une partie seulement. Hein. Tout ce qui concerne l'humour, hein, je crois que c'est quelque chose que j'emprunte à Gary. À d'autres aussi, mais en particulier à Gary, toute une réflexion sur l'engagement. Hein, et là, je pense à une autre trilogie, Aurais-je été résistant au bourreau, Aurais-je sauvé Geneviève d'Ixmer, et le dernier, Aurais-je été sans peur et sans reproche. J'ai beaucoup réfléchi sur cette question de l'engagement, et si j'apprécie Gary pour son humour, je l'admire aussi. C'est pas si fréquent de pouvoir admirer des gens, et c'est pas si fréquent de pouvoir admirer des écrivains ou des écrivaines. On vit beaucoup en France avec une sorte de mythe qui est celui de l'homme et l'œuvre, ou de la femme et l'œuvre. Et donc, oui, cet auteur est remarquable, sa vie, évidemment, est beaucoup plus problématique. Mais il y a aussi des gens dont on peut admirer l'ensemble.
C'est le cas pour vous avec Romain Gary.
Oui. Rappelons que Gary est un des héros de la Seconde Guerre mondiale. Et il est plutôt, d'après les biographes, modeste avec ce qu'il a fait par rapport à ce qu'il raconte dans La promesse de l'aube. Et donc, je l'apprécie pour son humour, mais je l'apprécie aussi pour son engagement. J'ai consacré un chapitre dans « Aurais-je été résistant au bourreau ?» je m'interroge sur l'engagement. Qu'est-ce qui fait que, dans des circonstances comme celle de la Seconde Guerre mondiale, il y a des gens qui ont le courage de s'engager. et pas seulement le courage d'être contre le gouvernement de Vichy, mais de s'engager physiquement avec tous les risques que cela comporte. Quand Gary s'engage dans l'aviation, rejoint le général de Gaulle, il sait qu'il a très peu de chances d'être vivant à la fin de la guerre. Et il raconte souvent dans La Promesse de l'Aube comment la plupart de ses camarades dans l'aviation de la France libre sont morts.
Il fait d'ailleurs des longues listes.
Oui, il y a quelque chose de très émouvant dans ces listes.
Hein, de noms d'hommes
disparus. De noms de gens disparus. Il donne les noms de ses compagnons, dans quelles circonstances ils sont morts, combien il continue à l'occuper. Hein. Dans la suite de son autobiographie, La nuit sera calme, hein, il parle par exemple du commandant Mouchotte, qui a une rue à Paris, et Gary proteste parce que la rue est moche et dit que ça n'est pas à la hauteur de son compagnon, le commandant Mouchotte. Vous voyez, toujours ce mélange d'humour et d'émotion. Donc, une des raisons pour lesquelles il m'a toujours occupé, préoccupé, c'est parce qu'il m'offre un exemple tout à fait extraordinaire de courage physique.
Et vous dites l'humour, vous dites le courage physique, intellectuel. Et sur cette question de réécriture de soi, parce que La Promesse de l'Aube, on ne l'a pas encore dit, enfin il l'a dit, hein, Gary, dans l'archive qu'on a entendu qui date de 1970, La Promesse de l'Aube n'est pas un livre autobiographique puisque c'est un livre sur sa mère, mais effectivement il parle de son enfance, de son adolescence après à Nice, son enfance se passe à Vilnius, son adolescence à Nice et enfin les années de la guerre jusqu'à la disparition de sa mère. Donc il y a une dimension autobiographique, mais il y a aussi une dimension de réécriture. C'est pour ça d'ailleurs que vous leviez les yeux au ciel, le Pierre Bayard, en entendant cette archive, parce que Gary explique que sa mère lui envoyait des lettres pendant la guerre, alors qu'elle était morte. Alors, est-ce que c'est cette idée-là aussi de réécriture, d'imaginer sa vie d'une autre manière qui vous plaît, comme vous aimez imaginer d'autres fins pour des romans, par exemple?
Alors, moi, je suis tombé dans le panneau hein, sur ces lettres. C'est un des épisodes les plus émouvants de La Promesse de l'Aube. J'ai longtemps cru. Hein. Romain Gary raconte comment, pendant toute son équipée dans la résistance, en Afrique, puis à Londres, il reçoit régulièrement des lettres de sa mère, qu'il a quittée juste avant la guerre. Elle était gravement malade, diabétique, obligée de faire régulièrement des piqûres d'insuline. Mais pendant toute la guerre, sa mère lui écrit pour le soutenir, et pour lui promettre la victoire des Alliés. Et à la fin de la guerre, raconte-t-il, lorsqu'il se rend à Nice pour retrouver sa mère, dans l'hôtel dont elle avait la gérance, l'hôtel Mermont, elle est inconnue et il se rend compte que sa mère est morte depuis plusieurs années, mais qu'elle a, pendant toute la guerre, envoyé des lettres qu'elle avait préécrites. Elle les avait rédigées, elle avait confié à une amie le soin d'alimenter régulièrement son fils de ses lettres. Moi, l'histoire m'avait bouleversé, hein, comme beaucoup de lecteurs, jusqu'à ce que les biographes de Gary, je pense en particulier à la biographie de référence de Myriam Anisimov, nous révèle que tout cela était inventé, comme beaucoup de passages de La Promesse de l'Aube. Donc c'est une autobiographie très particulière, hein, parce qu'on pourrait dire que c'est une sorte d'autobiographie maternelle. La mère est quasiment présente comme une co-énonciatrice, mais c'est aussi une autobiographie qu'on pourrait dire allégorique, parce qu'un certain nombre des passages les plus émouvants sont inventés. Et pourtant, ces passages permettent de dire une vérité qui serait plus difficile de dire autrement. Le soutien en lui de sa mère, dont il savait certainement qu'elle était morte, est fortement représenté, métaphorisé par cette allégorie des lettres qu'elle continuerait à envoyer. Donc, vous voyez, il y a un grand talent, je trouve, vous disiez de réécrire, pour transposer sur le plan allégorique des événements extrêmement émouvants, ce qui permet de les dire de manière originale.
Ce fut seulement aux abords de la quarantaine que je commençais à comprendre. Il n'est pas bon d'être tellement aimé, si jeune, si tôt. Ça vous donne de mauvaises habitudes. On croit que c'est arrivé, on croit que ça existe ailleurs, que ça peut se retrouver. On compte là-dessus. On regarde, on espère, on attend. Avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. on est obligé ensuite de manger froid jusqu'à la fin de ses jours. Après cela, chaque fois qu'une femme vous prend dans ses bras et vous serre sur son cœur, ce ne sont plus que des condoléances. On revient toujours gueuler sur la tombe de sa mère comme un chien abandonné. Jamais plus. Jamais plus. Jamais plus. Des bras adorables se referment autour de votre cou et des lèvres très douces vous parlent d'amour. Mais vous êtes au courant. Vous êtes passé à la source très tôt et vous avez tout bu. Lorsque la soif vous reprend, vous avez beau jeter de tous côtés, il n'y a plus de puits. Il n'y a que des mirages. Vous avez fait, dès la première lueur de l'aube, une étude très serrée de l'amour, et vous avez sur vous de la documentation. Partout où vous allez, vous portez en vous le poison des comparaisons, et vous passez votre temps à attendre ce que vous avez déjà reçu.
Extrait de La promesse de l'aube de Romain Gary. Nous sommes la première partie, chapitre 2. Et c'est vous, Pierre Bayard, qui nous avez indiqué ce texte-là. Est-ce que ça fait partie des textes que vous relisez régulièrement dans La promesse de l'aube ?
Oui, ça fait partie des textes que je relis régulièrement. Et je relis régulièrement La promesse de l'aube.
De A à Z, du début jusqu'à la fin.
Les deux. Quelquefois de A à Z, je l'ai fait pour l'émission. Quelquefois, je vais vers tel ou tel passage qui m'a marqué. Bon, celui-là qui est particulièrement émouvant, c'est le texte qui est à l'origine du titre, La oui. promesse de l'aube, mais qui est plus lyrique que beaucoup d'autres textes consacrés à la mer. Gary a trouvé des formes très originales pour dire l'amour maternel, l'amour pour sa mère et l'amour de sa mère pour lui. Par exemple, il y a beaucoup de passages qui reposent sur une comparaison entre sa mère et De Gaulle.
Oh oui, il y a l'autre grands... texte. On a un autre texte avec cette comparaison. N'anticipez pas, Pierre Bayard, voilà. Même si vous aimez ça.
Et puis, vous avez des manières de faire vivre la mère en créant une forme d'énonciation à deux. Comme si, dans le langage, l'un et l'autre étaient indissociables. Vous voyez, par exemple, au début du chapitre 28, « Quelques semaines à peine séparaient à présent ma mère de mon galon de sous-lieutenant, et on imagine avec quelle impatience nous attendions tous les deux notre appel sous les drapeaux. » Vous voyez comment l'utilisation des pronoms personnels, ici, montre le caractère indissociable de leur amour. Et il y a souvent des passages de ce type dans La promesse de l'aube, et puis il y a des passages tout à fait exceptionnels dans lesquels il raconte comment, quand il parle par moments, c'est sa mère qui parle en lui. Il y a un passage très drôle dans lequel il a un peu bu et il se met à parler aux officiers de l'armée en vantant la France toujours recommencée. Et il est étonné de lui-même, dit-il, par tous les stéréotypes que sa mère, qui est en train de parler à travers lui, produit.
Donc, voyez, et il prend, dit-il, l'accent russe.
Voilà.
Comme sa mère.
Absolument. Et donc, vous voyez, toutes les astuces stylistiques que Gary a trouvées pour exprimer son amour pour sa mère.
Mais ce texte qui porte quand même sur cet amour d'une mère pour son fils et d'un fils pour sa mère, est-ce que c'est presque inédit dans la littérature, Pierre Bayard ? Est-ce que, en fait, un fils qui déclare et qui déclame cet amour à sa mère, c'est si original ou alors ce sujet-là, l'originalité, tient justement à cette forme dont vous parlez ?
Alors, il y a d'innombrables textes hein, pour dire l'amour maternel. Il faudrait faire des recherches. En tout cas, ce qu'il décrit là, qu'il va décrire dans d'autres circonstances, c'est un phénomène de D-book. Le D-book, c'est un élément du folklore lituanien sur lequel va beaucoup jouer Gary. Le D-book, c'est un fantôme. Mais c'est un fantôme d'un type particulier parce qu'il s'implante en vous et tout à coup, il se met à parler à votre place. Et c'est ce que décrit Gary hein, dans de nombreux passages de La promesse de l'aube où c'est sa mère qui parle à sa place. Et c'est dans les scènes telles que celles que j'ai racontées, mais aussi dans l'ensemble de l'énonciation de la promesse de l'aube, il y a ce phénomène de dipoukisation, si je peux employer cet affreux néologisme, qui est très fréquent dans l'œuvre de Gary, qui est certainement une des originalités parmi tous les textes qui ont été consacrés à l'amour des enfants pour leur mère.
Et qu'est-ce qui fait que ce passage-là nous touche à une forme de lyrisme qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs? Parce que cet amour qu'il décrit pour sa mère, cette dipoukisation, je reprends votre affreux néologisme, Pierre Bayard, il est drôle souvent, il est extrêmement drôle. Mais qu'est-ce qui fait que tout à coup, Gary ne peut pas s'empêcher quand même de céder à une forme de sérieux, de lyrisme, de gravité? Et d'ailleurs, ce titre, La promesse de l'aube, est un titre extrêmement grave, pour pas dire un peu impressionnant en fait.
Oui, il y a toujours chez lui un mélange entre l'humour et la gravité. C'est ça qui est tout à fait caractéristique de son écriture. Je parlais du D-Book, qui est une figure qui revient fréquemment dans son œuvre.
C'est-à-dire dans d'autres livres, on a ça aussi.
Vous avez un livre qui est consacré à la Shoah, à l'extermination des Juifs d'Europe, et qui s'appelle « La danse de Gengis Khan », écrit peu de temps après la promesse de l'aube, dans lequel le narrateur est un D-Book. Le narrateur est une victime de l'extermination des Juifs, et au moment où il est mort, il a sauté dans la tête de son bourreau. Le narrateur donc s'appelle Gengis Khan et le bourreau s'appelle Schatz. C'est un nazi qui est... L'histoire se passe quelques années après la fin de la guerre. Schatz s'est reconverti, comme beaucoup de nazis en Allemagne, et est devenu commissaire de police. Mais il est hanté par le D-Book du juif qu'il a tué, Khan. Et ce qui fait que le juif le contraint, par exemple, à respecter les fêtes juives, ou par moments parle par la bouche de Schatz, qui se met à parler hébreu, yiddish plus exactement, et Schatz est obligé d'aller regarder dans les dictionnaires ce qu'il profère lui-même. Alors vous avez là un livre comique sur la Shoah, il faut quand même le faire. Assez curieusement, d'ailleurs, le livre n'a pas fait scandale, pour deux raisons, je pense. D'abord parce
Mais il n'est pas non plus très connu.
Non, mais il est des gariens, et il va l'être beaucoup plus grâce à votre émission. Et donc... Gary n'a pas eu de problème, je pense, d'une part parce que c'était un juif et d'autre part parce que c'était un héros de la résistance. Mais c'est un livre de dingue que cette histoire du D-Book qui s'exprime à travers le nazi. Et vous voyez, il y a souvent cette forme d'expression-là chez Gary. Ça concerne la mère dans La promesse de l'aube. Ça concerne aussi tous les compagnons qu'il a perdus. Hein. Il parle à leur place. Il y a une présence des morts chez Gary qui est très émouvante et qu'il exprime par euphémisme sous des formes assez drôles.
Qu'est-ce qui vous fascine dans cette dibouquisation, Pierre Bayard, dans le fait que l'un des modes d'expression de Romain Gary soit de parler comme un autre?
Je crois que d'abord les engagements qu'il a, les engagements politiques me touchent, mais c'est aussi le talent littéraire d'avoir trouvé des moyens pour parler des choses graves, sans tomber systématiquement dans le lyrisme.
Hein. Mais parce que c'est impossible, vous pensez aussi, de parler à la première personne? C'est-à-dire que la tentative de l'autobiographie, c'est toujours un échec? C'est toujours un autre qui va parler à sa place? C'est toujours la mère? Ou alors c'est vraiment l'idée du moi? D'ailleurs, on trouve des lignes aussi dans La promesse de l'aube qui sont extrêmement critiques à l'égard de ceux qui valorisent tant le moi, le jeu, la première personne.
C'est toujours un autre qui parle en soi, dans l'autobiographie. Hein. Et là, je ferai cette remarque en tant que critique littéraire et en tant que psychanalyste. Et je crois que son astuce, ça a été d'inventer des formes nouvelles pour exprimer le fait que c'est toujours un autre qui parle en soi.
Pourquoi c'est toujours un autre qui parle en soi dans l'autobiographie? Pourquoi vous le dites à la fois comme critique littéraire et psychanalyste?
Parce que je crois que dès qu'on parle de soi, il y a une part de nécessaire de fiction involontaire. Et lui va la jouer au maximum en créant véritablement des fictions. Et il y est d'autant plus prédisposé que c'est quelqu'un qui se vit comme une personnalité multiple. Et ça, il le dit très bien dans ce texte magnifique qui est son testament. « Vie et mort d'Émile Ajar », qui est un petit livre qui est apparu chez Gallimard, dans lequel il raconte l'histoire Ajar.
Donc après sa mort, hein, une fois qu'il est mort.
Voilà, et il explique comment, s'il s'est lancé dans cette aventure de création d'un double, c'était sa troisième tentative, hein, les deux précédentes n'avaient pas vraiment marché, eh bien, s'il s'était lancé dans cette tentative, c'était parce qu'il avait toujours eu soif de multiplicité, qu'il avait toujours eu envie de vivre plusieurs vies. Et il va vraiment y réussir, puisqu'il va vivre plusieurs vies, mais également créer plusieurs auteurs en même temps.
Mais ce n'est pas le cas de tous les auteurs. Je vous pose même la question, aussi en tant que professeur émérite de littérature, Pierre Bayard, c'est que la forme autobiographique, même pour des auteurs qui n'auraient pas envie d'avoir une vie multiple, c'est forcément un échec.
Ça peut être une
réussite. Par exemple, si je pense aux Essais de Montaigne.
Ça peut être une réussite littéraire, mais je ne pense pas qu'il y ait une sorte de vérité du moi que l'on atteint dans l'autobiographie. Là, il y a toujours une part de fiction, d'invention, de réinvention de soi.
Et pourquoi ? Parce que c'est le problème de la langue ? Ou c'est le problème de la sincérité ? Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas possible ?
Notre division psychique et le fait que dès que nous parlons, nous disons une petite partie de nous-mêmes qui vient de se révéler fausse, parce que je peux le dire autrement et puis autrement aussi. C'est un peu l'expérience de l'analyse où on découvre que ce que je viens de dire, non, il faudrait que je le précise et puis finalement le contraire est vrai et... La littérature et la psychanalyse sont des lieux dans lesquels on peut vivre cette complexité par opposition à d'autres lieux de discours comme la politique où on est nécessairement pris dans une forme de monophonie et de précision impossible.
On va écouter un autre texte, Pierre Bayard, de La promesse de l'aube de Romain Gary, texte où on entend encore la manière dont Gary embrasse cette complexité et cette multiplicité du moi et de l'identité.
Ma mère était outrée. Elle ne me laissait pas une minute tranquille. Elle s'indignait, tempêtait, protestait. Je n'arrivais pas à la calmer. Elle s'enflammait dans chaque globule de mon sang, s'indignait, se révoltait dans chaque battement de mon cœur et me tenait éveillé la nuit, me harcelant, me sommant de faire quelque chose. Je détournais les yeux de son visage pour essayer de ne plus voir cette expression d'incompréhension scandalisée devant un phénomène complètement nouveau pour elle, l'acceptation de la défaite, comme si l'homme était quelque chose qui pût être vaincu. C'est en vain que je la suppliais de se dominer, de me laisser souffler, de patienter, de me faire confiance. Je sentais bien qu'elle ne m'écoutait même pas. Pas à cause de la distance qui nous séparait, bien entendu, car elle ne m'avait pas quitté un seul instant pendant ces heures terribles. Mais elle était scandalisée, profondément blessée par le refus de l'Afrique du Nord de répondre à son appel. L'appel du général de Gaulle à la continuation de la lutte date du 18 juin 1940. Sans vouloir compliquer la tâche des historiens, je tiens cependant à préciser que l'appel de ma mère à la poursuite du combat se situe le 15 ou le 16 juin, au moins 2 jours auparavant. De nombreux témoignages existent sur ce point et peuvent être recueillis aujourd'hui encore au marché de la Bouffa. Молока.
France Culture, le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Cette chanson de la puce des années 1920, interprétée par Féodor Chaliapine, que cite Romain Gary dans La promesse de l'aube, c'est le roman dont vous avez choisi d'évoquer aujourd'hui avec nous, Pierre Bayard. On a entendu justement un autre extrait de La promesse de l'aube, c'est un extrait de la troisième partie, chapitre 32. Alors là, il y a de l'humour. Il dit que sa mère a précédé l'appel du général de Gaulle.
Oui, j'en ai un autre, si vous permettez, avec cette même comparaison, dans La promesse de l'aube, où il dit ceci à propos de la défaite des armées françaises. « J'ai toujours regretté, écrit-il, depuis qu'à défaut du général de Gaulle, le commandement de l'armée française n'ait pas été confié à ma mère. Je crois que l'état-major de la percée de Sedan aurait trouvé là à qui parler. Elle avait au plus haut point le sens de l'offensive et ce don très rare d'inculquer son énergie et son esprit d'initiative à ceux-là même qui en étaient le plus dépourvus. » Qu'on veuille bien me croire lorsque je dis que ma mère n'était pas femme à demeurer inactive derrière la ligne Maginot, avec son flanc gauche complètement exposé. C'est extraordinaire, je trouve, de cette manière de comparer en permanence sa mère au général de Gaulle.
Moi, ça m'a un peu angoissée au fur et à mesure du texte, Pierre Bayard. C'est-à-dire que, au départ, on a Romain Gary et on a sa mère. Et au fur et à mesure du texte, plus la mère disparaît physiquement, parce qu'elle est affaiblie, parce que Romain Gary aussi doit partir sur le front, s'engage dans les forces de la France libre, plus elle est omniprésente, mais c'est-à-dire elle n'est pas à côté de lui en permanence, collée à lui, elle est en lui, et parfois il doit fuir lui-même. Enfin, il parle de, il y a ce passage notamment où il s'engouffre dans les ruelles d'un souk à Meknès, il me semble, où il veut fuir sa mère qui le harcèle en lui disant « Mais qu'est-ce que tu fais ? Engage-toi ! Qu'est-ce que tu fais à ne rien faire ?»
Oui, alors c'est aussi quand même la marque chez Gary d'une extrême modestie. Hein.
On va y revenir à cette question.
Je me suis beaucoup interrogé hein, dans l'ouvrage « Aurais-je été résistant au bourreau ?» Je me demande comment je me serais comporté pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est une question des gens de ma génération, hein, les gens qui sont nés après la guerre et qui n'ont pas eu à se confronter à ce choix. Et je m'imagine dans la peau de mon père, qui est né en 1922, qui a donc 18 ans en 40, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? Parmi les exemples que je prends, il y a celui de Romain Gary, hein, et je me demande comment a-t-il eu le courage de s'engager? Alors, l'explication qu'il donne, c'est qu'il n'avait pas le choix, parce que sa mère exigeait qu'il s'engage. Mais c'est drôle et c'est très modeste, mais on ne s'engage pas parce que on porte en soi le rêve d'une certaine France par sa mère. On s'engage parce qu'on a du courage. Et je crois que la mère ici fonctionne comme une manière euphémistique de parler de soi pour éviter un élan narcissique où il aurait reconnu qu'il avait été d'un courage extraordinaire dans cette situation.
Alors, on va revenir sur la modestie, mais avant cela, Pierre Bayard, cette question sur le choix. Qu'est-ce qui fait ? On a parlé de l'impossibilité de se raconter vraiment du soi, du jeu dans l'écriture autobiographique. Est-ce que Romain Gary renonce aussi au moi ? En tant que tel, même pas à le raconter, mais au moi, au jeu, c'est-à-dire, non, je ne suis jamais seule, en fait, je suis toujours le produit de ma mère, je ne suis peut-être d'ailleurs que ma mère, d'une certaine manière, je ne suis rien que ça, renoncer à l'idée d'être un être tout-puissant qui décidait pour vous seul et de manière complètement autonome et indépendante.
Oui, mais encore une fois, je crois qu'il faut toujours relativiser les ce qu'il dit et tenir compte des procédés littéraires qui lui permettent de dire quelque chose. Que sa mère ait eu un rôle déterminant, y compris biographiquement, en l'encourageant à écrire, c'est une chose. Mais le Gary résistant, le Gary qui prend plus tard un certain nombre de positions politiques, c'est quand même un être autonome, hein, pour moi. Et donc je ne le soutiendrai pas complètement dans cette modestie qui consiste pour lui à expliquer qu'il était le jouet du désir maternel.
D'ailleurs, ce qui est très drôle, ce qui est à la fois angoissant avec cette omniprésence, cette persécution de la mère au fur et à mesure du roman, est aussi très drôle, puisque il tend à valoriser sa mère et à se dévaloriser sans cesse. Il met en avant son côté ridicule, c'est-à-dire que le moment où il a la typhoïde est un moment, vous l'avez lu en riant, Pierre Bayard. Moi j'ai lu en riant, c'est-à-dire notamment le moment où les médecins découvrent, nous dit Gary, par-dessus le marché, le fait qu'il ait hébergé un ténia, donc un ver solitaire, pendant des années dans son corps, alors qu'il était en train d'être, qu'il était presque en train d'agoniser à cause de la maladie.
Alors, ce serait excessif de ranger Gary parmi les auteurs féministes, même s'il revendique toujours la nécessité d'une part plus grande de féminité chez l'homme. En revanche, il y a une déconstruction chez lui d'une certaine forme de masculinité qui annonce un peu les thèmes féministes d'aujourd'hui. Et très souvent, en effet, il se présente de manière un peu ridicule, comme dans l'exemple que vous donnez.
Alors ridicule, mais comment on doit prendre cette forme de ridicule? Vous disiez le terme, vous employez ce terme de modestie. À certains moments, on peut dire aussi fausse modestie. C'est-à-dire, bon, cette manière de parler de soi sans parler de soi, cette manière de parler de soi sans se valoriser, est encore une manière, quand même, de parler de soi. Je prends cet exemple de la page, pour moi, c'est dans la deuxième partie, chapitre 22, page 181. Je ne sais pas si on a la même édition, Père Bayard, on a chacun notre livre dans la main, où il dit « L'humour était pour moi ce qu'il devait demeurer toute ma vie, une aide nécessaire, la plus sûre de toutes. Plus tard, bien plus tard, en privé et en public, à la télé et dans le monde, les inconditionnels du sérieux n'ont jamais cessé de me demander « Pourquoi racontez-vous toujours des histoires contre vous-même, Romain Gary ?» Mais il ne s'agit pas seulement de moi, il s'agit de notre jeu à tous, de notre pauvre petit royaume du jeu si comique avec sa salle du trône et son enceinte fortifiée. J'y répondrai peut-être plus longuement un jour. Et là, une note de bas de page, dans mon cas, nous renvoie à « La nuit sera calme » de 1974, son autre autobiographie.
Oui, où il fait semblant de s'entretenir avec l'un de ses amis, François Bondy, alors qu'en fait, on découvrira qu'il a rédigé également la partie François Bondy, faisant les questions et les réponses. Je crois que l'humour est très important aussi, et ce type de déconstruction, si l'on veut comprendre, et là c'est un autre des éléments de mon admiration pour Gary, son exceptionnelle lucidité politique, dont je ne vois guère d'équivalent dans cette époque de l'après-guerre. Bon, Gary est antifasciste, c'est évident, puisqu'il s'engage dans la résistance active contre le nazisme. Il est anticommuniste, non pas au sens où il contesterait l'idéal communiste du partage, mais au sens où il ne croit pas du tout dans le paradis soviétique, dont l'image va être si marquante pour toute une génération d'intellectuels. Il avait probablement été vacciné par le fait que son premier poste comme diplomate, il l'avait occupé à Sofia en Bulgarie, et qu'il avait donc pu constater directement le socialisme réel. Antifasciste, anticommuniste à une époque où c'est très rare, et écrivain écologiste aussi. Et là, vraiment, l'un des tout premiers, et là j'ai fait référence aux Racines du ciel, le premier Goncourt, signé Gary, où, avec défense des éléphants en Afrique, mais beaucoup plus largement, une défense de la nature menacée par l'être humain. Et si vous regardez toutes les cases qu'il coche, antifascisme, anticommunisme, écologie, vous ne trouverez pas beaucoup d'intellectuels de ces périodes-là qui aient autant de lucidité. Et je pense qu'il y a un lien entre cette lucidité et son humour. Un certain sens de décalage par rapport à l'énonciation, par rapport à un certain rêve pour les grandes idéologies. Je crois que cet humour l'a vacciné contre un certain nombre de naïvetés et en a fait quelqu'un qui, en tant qu'intellectuel, est assez exceptionnel. Je vois pas d'équivalent dans cette lucidité à ces trois questions.
C'est presque un dieu pour vous ? Une sorte d'idole ?
Ce serait quand même très excessif. L'enseignement de Gary, c'est que justement, il ne faut pas avoir d'idole.
Oui, d'ailleurs, dans La promesse de l'aube, il décrit dès les premières pages les dieux que sa mère décrivait, qui étaient le dieu de la bêtise, des préjugés, de la haine, et qu'il fallait combattre. Il y a un des dieux qui s'appelle Totoche, par exemple. Donc effectivement, on voit bien que la question de sacraliser est problématique déjà pour lui.
Un autre auteur que j'aime beaucoup et qui est caractéristique par son humour, Éric Chevillard, dit quelque part, quand on l'interroge sur ses maîtres, que les écrivains qu'il pourrait reconnaître comme des maîtres, il en cite quelques-uns, n'auraient jamais accepté d'avoir des disciples, et il ajoute donc, fidèle à leur enseignement, je ne les reconnais pas comme des maîtres. Et donc, fidèle à l'enseignement de Gary, je ne le reconnais ni comme un maître, ni comme un dieu. Mais c'est quelqu'un que j'admire et je trouve que j'ai beaucoup de chance. Parce que vous avez on parlera tout à l'heure de Céline.
C'est comme si vous n'aviez pas décidé de l'admirer.
Vous avez des collègues qui sont obligés de se payer la vie de Céline parce qu'ils travaillent sur son œuvre. Mais moi, je les plains et je leur envoie des sentiments d'empathie.
Mais quelle Céline chance. Pouvait être drôle. Les grands admirateurs de Céline le trouvent hilarant.
Oui, je parlais plutôt de ses engagements politiques. Quelle chance de pouvoir travailler sur quelqu'un qu'on admire comme un ensemble. Et je crois, on est trop prisonnier en France, je le disais tout à l'heure, de cette idée de l'homme, la femme et l'œuvre. Et je pense que Gary nous invite, elle n'est pas fausse cette idée, hein, c'est l'idée proustienne. Vous savez, l'œuvre et l'autre d'un autre moi contre Sainte-Beuve. Bergotte aussi, cette scène extraordinaire de la recherche où le narrateur qui admire Bergotte, son écrivain fétiche, se trouve confronté à lui et sidéré de ce qu'est Bergotte qui ne ressemble absolument pas à ses livres. Il se retrouve face avec un petit bonhomme barbichu sans aucun intérêt. Proust n'a pas tort, mais dans certains cas, on pourrait admettre aussi que c'est un ensemble qui est séduisant. Et moi, chez Gary, j'aime l'ensemble. La vie avec ses engagements politiques ou de la résistance, l'escroquerie à Jarre, son œuvre, c'est l'ensemble qui me plaît et que j'admire. Et je crois que dans certains cas, il faut accepter d'admirer un ensemble et de rompre avec cette tradition de la vie et de l'œuvre.
Le mystère ou le faux mystère du Goncourt, Émile Ajar continue de se cacher. Un homme le connaît bien, Émile Ajar en tout cas, son oncle, Romain Gary.
Il a une situation psychique à lui qui fait qu'il s'estime qu'il ne peut pas supporter la dépersonnalisation par un excès de notoriété. C'est un garçon d'une extrême gentillesse et d'une extrême douceur, un des plus gentils qu'on puisse imaginer. C'est ce qu'on appelle un marginal. Je pense que c'est un sentimental, qu'il a eu un rapport avec son éditeur qui a fait qu'il a probablement l'impression de poignarder son éditeur dans le dos au début, en premier temps, puis il a paniqué en deuxième temps, il a repris sa décision première qui est de refuser. Mettez-vous à la place d'un garçon jeune qui a un homme proche de sa famille, qui a atteint une certaine notoriété littéraire dans des conditions publicitaire, dans des conditions de produit, un produit Romain Gary qui ne lui plaît pas. Tout ce qui se passe aujourd'hui prouve que lorsqu'on veut préserver sa vie privée, on a tort de publier. À partir d'un certain degré de notoriété, les types deviennent prisonniers de leur image.
On a parlé de rewriting à propos du livre d'Émile Ajar.
Merde. Okay. Rewriting par qui ?
1975, le 21 novembre, sur France Inter Actu, on entend Romain Gary, qui se présente donc comme l'oncle d'Émile Ajar, et qui s'emporte à la fin avec ces merdes, qui concluent son intervention, car le journaliste émet l'idée d'une réécriture du texte. Alors il ne dit pas par qui, il n'a même pas le temps de dire si ce serait Gary lui-même qui serait intervenu ou quelqu'un d'autre. C'est cette affaire-là qui vous a fasciné chez Romain Gary, Pierre Bayard. Et ce qui est intéressant dans l'archive qu'on a entendu, c'est qu'il décrit lui-même ce qu'il est en train de vivre, puisqu'il dit qu'il se sent prisonnier d'une image et que son neveu voudrait éviter ça.
Oui, mais tout à fait. Il donne à une époque où en fait personne ne le soupçonne d'être Ajar, il donne un indice, une indication, hein, lorsqu'il dit qu'un écrivain passait un certain moment et prisonnier de son image. Et il souffrait beaucoup de l'image qu'il avait.
C'était quoi son image à l'époque ?
Alors, ce qu'il
parce
y a
que là, tel que vous l'avez décrit tout à l'heure, Pierre Bayard, c'est un homme, voilà, un homme de la résistance, un diplomate, un grand écrivain, couronné par les prix, reconnu, lu. C'est pas
oui,
trop
mais,
une prison, là.
Oui, mais méprisé par les intellectuels et les universitaires. Et l'une des raisons, c'était qu'il se disait gaulliste. Il disait que De Gaulle, qu'il confondait plus ou moins avec sa mère, c'était l'homme de sa vie. Et le fait de se dire gaulliste, dans toute cette époque, ça vous détruisait immédiatement. Sur la base d'un malentendu, parce que quand Gary se dit gaulliste, c'est pas le gaullisme du RPR, c'est pas le gaullisme de la droite actuelle, hein, c'est le gaullisme de Londres de 1940, c'est l'engagement, le courage de l'engagement contre le totalitarisme. Mais le fait de se dire gaulliste, le cataloguer, et je crois que ça lui a beaucoup nuit. Moi j'ai été, sauf erreur, le premier universitaire à faire un livre sur Gary, en 1990, il était deux fois Romain Gary, et tous les gens à l'université autour de moi m'ont regardé comme si j'étais pris d'un accès de folie.
Qu'est-ce que vous disiez dans ce livre ?
C'était impensable de travailler sur Gary. Et en particulier, je travaillais dans une démarche qui est la mienne, en essayant de montrer comment la littérature peut nous proposer des modèles originaux du psychisme, et j'avais travaillé sur une notion que j'avais créé, qui était celle de roman parental, avec cette idée que nous pouvons être pris dans les rêves que les parents ont fait à notre sujet. Évidemment, ça marchait très bien avec Gary, puisqu'il se présente comme étant un personnage des fictions que sa mère avait inventées. Mais pour en revenir à ce que je vous disais, l'étiquette gaulliste, c'était une image qu'il traînait avec lui, et c'est pour rompre avec cette image qu'il va inventer un nouveau personnage, un nouvel écrivain, qui est Ajar.
Donc c'était pas un problème de style, ce qu'on pouvait lui reprocher ?
Alors, il y a ça aussi.
Parce que Ajar, c'est un tout autre style.
Oui, alors, par rapport à une certaine conception de l'écriture dominante en France, une écriture, je dirais, calibrée au millimètre, minimaliste, c'est vrai que les textes de Gary tranchent. Il faut plus les rapprocher de gens comme Gogol. Mmh. C'est un style avec beaucoup de souffle, pour prendre le nom de votre émission, qui détonnait aussi un peu par rapport à la littérature française de l'époque, ce qui fait qu'il a été quand même, et il est encore tout de même tenu à l'écart dans le canon littéraire français universitaire, même si j'ai l'impression qu'aujourd'hui
c'est
il y a
plus
des raisons
gaullistes,
plus de travaux sur lui.
Pardon. Mais ce n'est pas des raisons gaullistes aujourd'hui pour les chercheurs des générations actuelles.
Non, puisque tout le monde est devenu gaulliste, mais tout le monde aujourd'hui, même l'extrême gauche, se réclame du gaullisme. Non, c'est un ensemble, mais peut-être que je prends mes désirs pour des réalités, ce qu'il faut faire. J'ai l'impression quand même qu'aujourd'hui, il est de plus en plus considéré dans l'université. Il faut voir le nombre de thèses, mais je crois qu'il y en a de plus en plus. Et j'espère qu'il va rentrer définitivement dans le canon de la littérature française, qu'il y aura une petite place de niche, en tenant compte de l'ensemble, sa vie, son œuvre.
Mes chers auditeurs, c'est sur un pont du Garigliano que le chevalier sans peur et sans reproche Pierre du Terrail, seigneur de Bayard, posa l'un des plus beaux fleurons à sa couronne de gloire. C'était un type de Français très pur que Bayard. D'origine savoyarde, né dans la vallée du Grésivaudan, au château de la Buchière, Bayard était un montagnard. Son type physique nous est révélé par Brantôme, qui ne l'a pas connu, mais a interrogé ses contemporains survivants et leur présente ainsi. Ceux qui l'ont vu, j'ai ouï dire que c'était l'homme du monde qui disait et racontait le mieux. Toujours joyeux à la guerre, il causait avec les compagnons de si bonne grâce qu'ils en oubliaient toute fatigue, tout mal et tout danger. Il était de moyenne taille, mais très belle, fort droite et fort dispos. Bonhomme de cheval, bonhomme de pied. Il communiquait la certitude de vaincre, faisant oublier à ses soldats le danger tant il le rendait naturel. L'élan chez lui s'allie à la raison. Celle-ci ouvre la voie avant que l'élan se déchaîne. Aussi Brantôme, dit-il de lui, il faisait mieux que conduire l'armée, puisqu'il commandait le général.
C'est une archive du 29 mai 1944, une causerie du comte de Guédon, diffusée sur Radio Paris. Cette archive, Pierre Bayard, pour évoquer votre dernier ouvrage, Aurais-je été sans peur et sans reproche, Le chevalier Bayard et moi, qui est paru aux éditions de Minuit. Vous m'aviez dit juste avant l'émission, Pierre Bayard, que vous arrangez toujours pour citer Dugarry dans vos livres, c'est un de vos rares principes. À quel endroit vous citez Romain Gary? Quel est le rapport entre votre travail sur ce travail des origines, votre filiation entre le chevalier Bayard et vous, et Romain Gary?
Alors c'est une trilogie qui commence par Aurais-je été, une trilogie uchronique où je m'envoie moi-même dans le passé pour essayer de réfléchir à la façon dont je me serais comporté dans telle ou telle période importante de l'histoire autour de la question « et si ?». Donc je vous disais tout à l'heure que dans Aurais-je été résistant au bourreau, je me demandais si comme Gary j'aurais eu le courage de m'engager dans la résistance. Bon, la réponse que je donne est tout de même très très prudente. Je doute beaucoup que je l'aurais fait, pour des raisons qui tiennent au fait que j'ai très peu de courage physique. Dans les deux volumes suivants, j'ai posé les mêmes questions, et j'imagine par fiction, dans Aurais-je été sans peur et sans reproche, que je descends du chevalier Bayard. En tout cas, le narrateur prétend qu'il descend du chevalier Bayard. Je précise que la généalogie n'est pas pour le moment complètement attestée. Mais ça me permet de réfléchir sur cette grande figure de l'histoire de France. Alors d'abord, je réponds à la question de façon très claire à nouveau, en disant qu'à l'époque, je ne me serais pas engagé dans la chevalerie. Donc Bayard est une sorte de double de Gary, par manque de courage physique. J'imagine plutôt que je suis devenu moine, ce qui me conviendrait très bien. Ça me permet de passer mes journées à lire, à écrire et à réécrire les textes.
Donc l'équivalent de moine pour le XXIe siècle, c'est psychanalyste.
Voilà, en quelque sorte, il y a des liens, mais c'est aussi critique littéraire, et surtout si on pratique, comme je le propose, la critique interventionniste. La question du dernier livre, c'est la question du droit de tuer. Est-ce que comment concilier chez cet ancêtre supposé et fictif son sentiment d'empathie, la générosité que tout le monde lui reconnaissait, ses convictions chrétiennes, avec le fait qu'il tuait des gens toute la journée? C'est une question que je pose dans ce livre, qui est une question de philosophie morale, comme dans les autres volumes de la trilogie, où je me pose des questions qui relèvent de l'éthique. Mais Gary est toujours présent, puisque c'est un auteur qui, pour moi, est porteur d'une pensée sur la réflexion éthique et sur la bifurcation. Et j'aurais la citer un passage de La Promesse de l'Aube, qui est moins connu que d'autres, et qui m'a toujours beaucoup ému, et qui concerne une femme qui s'appelle Annick. La scène se passe à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac en 40. Gary essaie de trouver un avion parce qu'il veut aller rejoindre De Gaulle en Angleterre. Et finalement, il en trouve un, et avec quelques camarades, il décide de partir dans l'avion. Mais dans un premier temps, ses futurs résistants décident de faire un premier tour de piste avec l'avion pour tester l'avion. Gary, pendant ce temps-là, va
est sauvé par un coup de fil.
Il est sauvé par un coup de fil de sa mère, qui a réussi à le joindre alors que toute la France est en pleine débâcle. Là encore, il faudrait vérifier ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas, mais c'est très fort même du point de vue de l'allégorie. Et donc, il a sa mère au téléphone, et sur le dernier cri de sa mère, c'est « on les aura ». Et pendant qu'il est en train de téléphoner à sa mère, il voit l'avion de ses camarades qui tombe en piqué et qui s'écrase. Tous sont morts. Mais dans cet avion, il y avait un proxénète, il s'appelle Bellegueule, qui voulait partir avec l'une des prostituées. Qui s'appelle Annick. Et cette Annick vient voir Gary et lui dit « Je veux partir en Angleterre. Je veux continuer la lutte. » Et elle explique qu'à son niveau et avec son métier, elle pourra donner un coup de main. Et c'est là que Gary a une formule que je trouve absolument magnifique. Il dit, page 290, « Cette petite Bretonne, Annick, me paraissait avoir bien plus de compréhension instinctive de ce qui est ou n'est pas important que tous les tenants des morales traditionnelles. » Et l'hommage qu'il rend à cette femme qui sait ce qui est et ce qui n'est pas important, je trouve que c'est une sorte de réflexion de philosophie morale sur la bifurcation, sur les comportements, les choix que nous pouvons faire dans ces moments de bifurcation. Parce qu'il l'oppose à tous ses camarades de l'armée qui, eux, ont choisi Vichy et qui, eux, n'ont pas compris ce qui est et ce qui n'est pas important.
Quand je caresse du bout de mes doigts
joue ton coup, je suis maladroit. Je sais tu rêves d'un garçon plus vieux. Est-ce que tu crois qu'il t'aimera mieux? Tu me regardes, je suis malheureux. Tu ris, tu dis, ce n'est pas sérieux. Et gentiment, tu me prends la main. Je ne suis rien, rien que ton copain.
Cette chanson, Pierre Bayard, pour introduire cette séquence de fin d'émission, après avoir évoqué l'œuvre qui a transformé votre vie, place à un auteur que vous n'aimez pas ou qui vous résiste. On va passer très peu de temps sur cette séquence, Pierre Bayard, car vous venez de me dire que Romain Gary avait quelque chose à dire. Donc, qui avez-vous choisi? Et après, dites-nous, transmettez-nous le message de Gary.
Moi, j'ai choisi Céline, que je n'ai jamais lue, que je ne lis pas et que je n'irai pas plus après l'émission, parce que je n'ai pas l'habitude de lire les textes des antisémites. Mais Gary raconte dans La Promesse de l'Aube que toute sa vie, il a transmis un message d'un juif de Vilnius, où il habitait, qui, sachant que sa mère avait raison et qu'il deviendrait célèbre, lui demandait « Rappelle, chaque fois que tu le peux, qu'au numéro 16 de la rue Grande Paulanka habitait un certain monsieur Pikilny. Eh bien, comme Gary n'est plus là pour le faire, je rappelle donc, comme je crois le font beaucoup de Gariens, qu'au numéro 16 de la rue Grande Paulanka à Vilnius habitait un certain monsieur Pikilny, qui, comme le dit Gary, a terminé sa vie en compagnie de quelques autres millions de juifs d'Europe dans les chambres à gaz. »
C'est pour ça que vous n'en dites pas plus sur Louis-Ferdinand Céline et vous avez choisi Voyage au bout de la nuit, mais enfin ça pourrait être n'importe quel texte de
votre émission porte un très beau titre, Le souffle de la pensée. Moi, je crois que la pensée, c'est probablement votre idée en intitulant ainsi votre émission, elle est présente dans les œuvres même qui ne sont pas des œuvres de sens humain, de forme diffractée, polyphonique. Il y a une pensée dans les œuvres. Moi, la pensée de Céline ne m'intéresse absolument pas. Celle de Gary, comme j'essaie de le montrer dans cette émission, m'intéresse.
Vous m'avez pas dit juste une dernière chose, le tout premier souvenir, vous m'avez dit que vous aviez découvert Gary avec l'affaire Émile Ajar, mais vous n'avez pas dit, mais je vous ai pas posé la question, c'est de ma faute, Pierre Bayard, quel est le tout premier souvenir que vous avez de votre ouverture de ce livre, La Promesse de l'Aube, de votre première lecture?
Oh, je pense que, comme beaucoup de gens, je me suis laissé piéger par ces allégories. Je pense que c'est l'épisode à la fin des Lettres de la Mère, lorsqu'il revient à l'hôtel Mermont à Nice et qu'il découvre que sa mère est morte depuis plusieurs
années.
Mais
vous vous souvenez de quand vous l'avez lu? Vous étiez?
Non.
Vous n'avez aucun souvenir là-dessus?
Vous savez, en psychanalyse, on considère que les souvenirs sont souvent des souvenirs écrans.
Oui, mais est-ce que vous démontez tout à chaque fois en vous disant, en psychanalyse, non, donc en fait, je ne me souviens pas de ça, parce qu'un souvenir est un souvenir écran.
Non, je ne peux pas vous donner de souvenirs précis, mais en revanche, j'ai le souvenir de ma profonde tristesse, même si je lui pardonne, quand j'ai découvert qu'il avait inventé cette histoire.
Merci beaucoup, Pierre Bayard. De vous, on peut lire « Aurais-je été sans peur et sans reproche, le chevalier Bayard et moi », c'est aux éditions de Minuit. Et si les Beatles n'étaient pas nés, qui est paru en poche, il me semble que votre premier ouvrage, il était de Romain Gary, je crois, n'est plus édité, il est épuisé, je crois.
Il est épuisé actuellement.
Alors
oui.
Peut-être que on peut lancer l'appel à votre éditeur, voilà, rééditer ce texte de vous, un de vos premiers travaux sur Romain Gary, et lisez La Promesse de l'Aube, auditeur, auditrice de Romain Gary. C'est disponible en folio Gallimard. Et un grand merci à Manon Delasselle qui a préparé cette émission, à Nicolas Berger à la réalisation, à Grégory Wallon à la prise de son. Toutes ces émissions du Souffle de la Pensée sont disponibles sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. La semaine prochaine, c'est Géraldine Mühlmann et son équipe que vous retrouverez pour une nouvelle série d'Avec Philosophie.